France Musique. France Musique. Les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Nicole Fallien. Je suis née à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, le 11 janvier 1938. Et je suis chanteuse, musicienne, pianiste, et j'enseigne le travail de la voix.
Dites, la jeune belle, où voulez-vous aller ? La voile ouvre son aile, la brise va souffler. La brise va souffler.
Quand j'ai passé mon concours, Camille Morane était dans le jury et j'avais dit à mon professeur, je ne passe cet examen que si je choisis mes partitions. Ah, parce qu'il fallait un air d'opéra, un air classique et puis une mélodie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai choisi des choses difficiles musicalement où il y avait à interpréter comme une pianiste, comme une... Voilà. Donc, je sais que j'ai bien chanté. Mais il ne fallait pas que je chante les extrêmes, sinon ça cassait. Et puis, donc j'ai eu mon premier prix à l'unanimité. Donc, vous savez, après, on sort, on va dans les coulisses, tout ça. Et je vois Camille Morane arriver. J'avais les jambes qui faisaient ça parce que je le vénérais. C'était un tel monsieur musical. Donc, il vient vers moi, puis il me fait, assez arrogant, « Bon, vous êtes contente, vous avez votre prix. » Alors, j'étais très étonnée, parce que, en général, quand on va voir quelqu'un, c'est pour lui dire « Vous avez bien chanté » ou « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez fait. » Alors, je lui ai répondu « Ben, je ne sais pas si j'ai bien chanté, mais vous m'avez donné mon prix. »« Oui, mais vous ne savez pas chanter. » Mais j'ai dit « Comment vous avez osé me donner mon prix, alors ?» Moi, j'y ai cru. Mais c'est pour que vous foutiez le camp de ce conservatoire et ne plus avoir ce prof. C'est la vérité, ce que je dis. Je n'ai plus jamais remis les pieds au conservatoire. Je suis restée très amie avec Albert Bocan. Je continue à faire de la musique. Ça. Et puis, le Théâtre des Arts de Rouen s'est ouvert avec Carmen. Donc, j'avais besoin d'un petit peu de sous. Toujours Albert Bocan me dit, bon, passe audition, rentre dans les chœurs, même si t'es en mezzo, tu forceras pas. Puis, ce que j'ai fait. Évidemment, les chefs d'orchestre, comme
vous
je
avez
disais...
été dans les chœurs.
Dans les chœurs de... Ah oui, j'y suis allée...
De l'Opéra de Rouen.
Ah oui, alors là, j'étais beaucoup plus vieille. Hein, j'avais 18 ans, 19, 20, 21. Ouais. Au moins jusqu'à 21 ans.
Ouais.
Puisque j'ai eu mon fils à 20 ans, je crois. Je m'en rappelle plus. Donc, voilà, j'étais dans les chœurs. Alors là, j'ai vraiment fait ma formation d'opéra, d'opérette et de comédie musicale. On faisait les trois. Parce qu'à cette époque-là, à Rouen, le vendredi soir, on chantait un opéra. Le samedi soir, une opérette. Le dimanche après-midi, un opéra. Et le dimanche soir, une opérette. Ça, toutes les semaines. J'ai appris mon métier. Oh, passer de l'opéra à l'opérette comme ça, quand vous ne savez rien. Hein, vous savez à peine chanter et tout. C'est vraiment là. Là, j'y suis restée 5 ans. J'ai vraiment appris mon métier, quoi.
Et alors là, vous êtes toujours mezzo.
Ah ben, je disais pas. Alors dans le chœur, il m'a mis mezzo et puis après, il me dit, oh, mais t'as quand même des aigus faciles quand tu fais de la musique. Je dis oui, mais je craque encore des sons. Mon chef de chœur me dit cherche. C'est un, je me souviens, un Allemand, ce garçon. Il m'a aidé terriblement. Cherche. Cherche des choses, essaye de trouver avec ton oreille, essaye de trouver. Et maman qui m'aidait. Parce qu'à la maison, je travaillais, je me souviens, on avait un appartement tout en longueur, elle était dans la cuisine au bout et moi dans ma chambre à l'autre bout, et je faisais des sons et elle me disait, elle sortait de la porte, elle me disait, celui-là il est bon, tu le repères. Alors je repérais ce que j'avais fait, et tout doucement, j'ai continué à trouver des demi-tons, et j'ai retrouvé ma voix naturelle, qui était un vrai soprano, au début léger, mais qui est devenu un soprano lyrique parce que j'avais une grande tessiture, je pouvais chanter n'importe quoi. Mmh. Donc c'est dans ces chœurs que j'ai appris à chanter.
Et ce chef de chœur a été donc une personnalité importante.
Alors, très importante, j'ai encore oublié son nom. C'est pas très grave.
Ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir ce que vous découvrez, parce que vous découvrez évidemment le répertoire, mais vous qui aviez tellement admiré Callas, oui, qui incarnait ses personnages, oui, etc., justement, là vous êtes au théâtre.
Mais voilà, et c'est ça qui m'a intéressée. Moi je voulais être comédienne, mais maman elle me dit, j'ai pas sacrifié ma vie à ta musique pour que tu sois comédienne. Tu peux très bien être comédienne en chantant. C'est ce qui a fait de moi, ça. Donc après, je pouvais tout faire. Mais tout faire. En scène, j'étais heureuse comme tout, parce que ça faisait partie de moi. La comédie, j'avais pas de soucis. Ça marchait tout seul. Et j'ai eu des merveilleux metteurs en scène qui m'ont appris le métier aussi. Oui. J'ai appris mon métier à Rouen.
Dans les œuvres, qu'est-ce que vous aimiez? Parce que ça n'a rien à voir, hein, l'opérette et l'opéra.
J'ai vraiment tout fait. J'ai commencé par Boris Godounov, c'était pas n'importe quoi. Je chantais le petit Zarevitch, le petit garçon.
Et vous chantiez en français ou vous chantiez en russe?
En russe, là.
Ah oui.
Ah oui, mais on avait sur place, on avait ce qu'il fallait. C'est un théâtre magnifique à l'époque, je sais pas maintenant, mais c'était... On avait... Non, j'entends. Voilà. Mais la difficulté, c'est pas le russe, moi, c'était de danser. C'est qu'on est accroupi, il faut lancer la jambe comme ça, tout en chantant.
Ah ben là, il faut avoir le souffle au bon endroit.
Hein. Voilà. Oh, c'est pas une question de souffle, parce que à partir du moment où on est vivant. Le souffle, c'est l'énergie, je vais vous apprendre ça après. Ah. Chez moi, on n'apprend pas à respirer. Non. Le souffle, c'est l'énergie, il faut être là, quoi. Il faut avoir des choses à dire. Donc, déjà, je m'appliquais pour mon russe, mais après, quand il a fallu danser, j'ai passé des heures à lancer la jambe en l'air, accroupi. Hein. Et puis, bon... J'ai fait ce que j'ai pu, hein. J'étais pas une danseuse, hein. J'ai fait ce que... surtout pour danser ça, quoi. Danser une valse, ça allait, mais ça, c'est ça. Donc ça a marché, sauf que j'ai eu un problème. Vous savez, quand au théâtre, on commence des petits rôles comme ça, on est toujours baptisé par les copains qui vous font des petites vacheries, des petits machins comme ça. Et le mec des chaussures, comment on appelle ça, le...
Ah non, au théâtre. Le costumier.
Oui, le costumier, on va dire costumier, m'essaye des bottes, hein. Mais je n'ai pas que des petites mains, j'ai également des petits pieds. J'ai mal foutu, hein. Mes parents m'ont pas fini. Hein. On est d'accord. Je fais du 36,5. Donc il avait que des bottes d'hommes, il n'avait pas des bottes pour des filles. Donc il m'a dit, c'est pas grave, je vais te mettre du coton au bout, hein, et puis tu vas pouvoir danser avec ça, ça bougera pas. Je lui ai fait confiance, je commence à danser. Puis d'un seul coup, j'ai une botte qui a atterri sur le pupitre du chef d'orchestre. Je ne me suis pas démontée, je suis restée accroupie, j'ai continué de chanter pour ne pas arrêter l'orchestre, le chœur, pas importuner les autres. Et après, j'ai pris une paire de gifles par le chef d'orchestre. Alors ça m'a atteinte au plus profond de moi-même, parce que je n'étais pas responsable. On m'avait fait une vacherie, j'y étais pour rien. Il n'a pas essayé de savoir, il m'a jugé, tu devrais faire un autre métier, etc., etc. Enfin, ça a été très dur. Donc j'ai mis beaucoup de temps à digérer ça. Je me suis dit, donc on rencontre aussi des musiciens qui peuvent être aussi des gens pas très humains. Donc il faut essayer de se préserver.
Est-ce que c'était une forme de bizutage, vous pensez?
Ah ben complètement. Ah ben complètement. Après, il m'a entendu, hein. Je vais aller le voir. Oh, mais on a fait ça pour rire. Mais je ne te rends pas compte, la responsabilité. Si j'avais pas eu le cran de continuer, que je me sois arrêtée, on arrêtait tout le plateau, quoi. C'est grave de faire des choses comme ça. Je sais pas si ça existe encore, je crois pas, j'espère que non, en tout cas. Moi, j'ai subi ça. Voilà.
Donc, Boris Godounov, première expérience.
Voilà. Alors ouais. Après, j'ai fait Chérubin, Siebel, j'ai fait tous les garçons. Mais à cette époque-là...
Vous aimiez bien, ça? Jouer les rôles de travesti?
Ben, c'est-à-dire, j'étais contente parce qu'il n'y avait pas d'aigus. J'étais toujours un peu fragile dans mes aigus. Je savais toujours pas très bien faire. puisque je ne savais pas faire. Hein. Donc ça dépassait pas la bémol, sol, la bémol. Moi, j'étais contente, ça allait. Ça m'allait très bien.
Et en termes de composition théâtrale.
De composition, c'est formidable. Moi, j'avais une poitrine, j'étais un peu rondelette. Je me bandais les seins pour mettre sous mon costume pour que je passe vraiment pour un jeune homme, quoi. C'était pas facile de respirer avec ça. Hein. J'y croyais vraiment, quoi. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de travestis comme ça au début, qui m'a permis de continuer à chercher pour ma voix avant de faire des grands rôles. Voilà. Donc, tout doucement, c'est rentré dans l'ordre. Après, on m'a donné des rôles plus importants. Hein, je me suis plus, après ce que j'ai eu... Ah, j'ai fait beaucoup d'opérettes.
Parce que, là, vous êtes, quand vous chantez chez Rubin, si belle, vous êtes plus choriste.
Ah, mais non, parce que dans les chœurs, on est payé en supplément. On reste choriste, mais on vous prend dans le chœur et vous faites le rôle. Pendant le spectacle, vous êtes le rôle, voilà. Donc, je sais pas si ça existe encore, mais nous, c'était comme ça, en tout cas. Et puis, un jour, on prend au programme Violettes Impériales. Arrive Mariano.
Donc là, opérette.
Alors là, j'adorais danser, tout ça. J'étais pleine de vie, quoi. Donc, c'est pareil. Il faut voir tout ce qu'il m'a appris.
Mariano.
Oh, la première fois que je me suis assise avec une crinoline. Évidemment, tout le monde a vu mon pantalon et mon slip parce que la crinoline de Blastoise de Président, je ne savais même pas m'asseoir avec une crinoline. Après, quand il a fallu descendre un grand escalier... Vous savez, c'est pareil, je voyais pas mes pieds. Donc, il me tenait derrière pour pas que je tombe. Et après, il m'a appris à descendre l'escalier.
À l'aveugle.
Bon, ça, c'est une histoire de crinoline. Mais il faut voir tout ce qu'il m'a appris en comédienne, quoi. C'était un garçon, mais un amour, d'une générosité, un don.
Alors, lui, il n'avait pas de problème avec les aigus.
Ah, non, non, avec rien. Avec rien, lui, il savait chanter. Voilà. Ça aussi, ça m'a ouvert les oreilles. Je me suis dit, on peut ne pas se prendre la tête en chantant. Hein, ça doit être naturel. Il faut seulement savoir où c'est, où ça sonne et comment on respire. Et comment on gère l'énergie. C'est tout. C'est tout.
France Musique. Les grands entretiens de Nicole Fallien.
L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est plus doux que ses fleurettes. Quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête, il faut lui prendre la main sans attendre à demain. L'amour est un bouquet de violettes. Ce soir, cueillons ses fleurettes. Car au fond de mon âme, il n'est qu'une femme. C'est toi qui seras toujours mon seul amour.
L'intérêt de faire de l'opéra, c'était de jouer. Que ce soit de l'opérette, de la comédie musicale ou de l'opéra, c'est pareil pour moi. On enfile un personnage, mais pour cela, il faut savoir chanter. Parce qu'il faut courir en chantant, il faut sauter en chantant. Hein, faut pas que la voix soit déstabilisée. Donc moi, j'apprenais. Quelquefois, il y a des sons qui craquaient parce que j'avais des peurs. Tout doucement, j'ai appris à mélanger tout ça et à me dire, mais si le corps est libre, si le corps est heureux, s'il sait... où est l'énergie et la propulsion de la voix, ça marche, quoi. Alors après, quand je le refaisais en répétition à froid, je ne savais plus chanter. Parce que c'était l'instinct qui m'avait fait sortir les sons, mais pas la connaissance, la grammaire. Qu'est-ce qu'on fait quand on est malade? Qu'est-ce qu'on fait quand on est contrarié? Qu'est-ce qu'on fait... voilà. Il faut savoir ce que l'on fait. Parce que c'est uniquement pour les jours où ça ne va pas. Les jours où on est malade, où on a un truc, il faut quand même chanter.
Finalement,
même malade,
il faut avoir conscience de ce qu'on fait naturellement.
Ben, bien sûr, c'est rendre conscient. Donc tout mon travail repose là-dessus. De le naturel, la spontanéité. Donc je fais crier les gens, je les fais rire, je les fais pleurer, je les fais sur une jambe, à terre, assis, à genoux, dans tous les sens. Et sortir quand même des notes difficiles. Où ils sont debout, je tape derrière les genoux, ils tombent et l'aigu sort tout seul. Il me dit, mais attendez, j'ai rien fait. Ben non, j'ai rien fait. Mais après, il faut le rendre conscient. ce qu'on fait instinctivement, il faut le rendre conscient. Là, c'était une grande recherche de ma part.
Et finalement, quand vous êtes dans cette période-là à Rouen, engagé à l'opéra, etc., votre professeur, c'est vous-même, un peu le chef de chant, le chef de chœur.
Le chef de chœur et puis les artistes. Les artistes sur le plateau. Ouais.
Qui me disaient, et qui est-ce qui vous frappe alors? Il y a Luis Mariano. Est-ce qu'il y a des chanteurs?
J'ai fait des spectacles avec Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, avec Annie Cordy que je vénérais. Mais qu'elle chantait bien. Et elle dansait, elle jouait. Je me disais, mais moi, c'est ça que je veux faire, mais en opéra. En opéra, on est plus un pot à tabac. Donc, il faut essayer de bouger un peu. Mais en opérette, c'est merveilleux. L'opérette, il faut deux qualités essentielles. Il faut d'abord être comédien et musicien. Puis, il faut avoir une voix libre. Sinon, on ne peut pas faire d'opérette. Ben non. C'est quand vous chantez, vous ne bougez plus, ça ne marche pas. Il faut d'abord être
l'opérette. L'opérette, ce qui est difficile aussi, c'est qu'on parle et qu'on chante.
Mais voilà. Donc, il faut parler au même endroit. D'où voix parler, voix chanter, c'est le même truc.
Oh, bah alors, vous parlez d'une histoire. Perdue toute seule, à pied dans la pampa. Au fond des pampas, on ne trouve ni de bistrot ni d'autobus. Et quand la chaleur vous éprouve, on a l'ombre des cactus. Quand on va pas à pas, à pied dans la pampa, tant pis. Si l'on a la pépite, le pâle est tout pâteux, on pense tout piteux, la peau pour se taper un pot, pour un grand verre de bière. Ici, on ferait des folies quand on va passer.
Je suis allée voir toute la tétralogie à Bayreuth, c'était extraordinaire, avec une sonorité parce que l'orchestre est sous la scène. Et des chanteurs, mais qui chantaient, qui bougeaient, qui s'exprimaient. Oh, j'ai gardé tout ça. Donc,
ça, c'est quand vous étiez jeune. Bayreuth.
Bayreuth, j'avais devait avoir une trentaine d'années.
Ouais. C'était un désir fort, parce que c'est un hasard hein, d'arriver à Bayreuth.
Oui, c'était un désir très très fort. Oui, parce qu'après j'étais engagée pour faire Eva des maîtres chanteurs en Allemagne, à Weikersheim. Donc là aussi, ça a été. J'ai vraiment une histoire. Je suis un peu bizarre. Ce jour-là, c'est pareil. Je répétais à la salle Pleyel à l'époque. À la salle Pleyel, les salles étaient louées pour les danseurs et les chanteurs. Et un jour, je suis une fan de Wagner. J'ai tous les Wagner ici, toutes les partitions. Je suis une fan de Wagner. Et un jour, je chantais Elisabeth de Tannhauser. Voilà. Oh là, bon, j'étais contente en m'accompagnant et tout. Puis je vois une porte s'ouvrir. Excusez-moi, madame, je vous dérange, c'est vous qui chantiez. Ben, j'ai dit, écoutez, monsieur, je crois que je suis toute seule dans la pièce. Je ne l'ai pas pris au sérieux du tout. Je suis toute seule dans la pièce. Oh, j'ai beaucoup aimé. Ah, ben, vous m'envoyez ravie, mais je dis, vous savez, je travaille, je m'accompagne. Ah, oui, mais. Ah, non, puis votre allemand, bien. Alors, j'avais pris des cours, hein, ça. Italien-allemand, attention, hein. Tout ça, je sais faire. Voilà. Et il me dit, mais parce que voilà, je monte un opéra en Allemagne au mois de juillet et je cherche mon rôle pour Eva. Et si vous êtes libre, est-ce que vous accepteriez de le faire? Alors, je le regarde, je ne réponds pas. Il ajoute, mais vous ne connaissez peut-être pas le rôle. Brrr, dans ma tête. Ah, je dis, si, je connais le rôle. Si. Je n'avais pas ouvert la partition. Je connais un air. Mais je suis musicienne. J'ai appris ça très vite, toute seule. Donc j'ai dit oui. Et je suis partie là-bas. Je savais mes pages. Hein, 390 pages. Alors, je n'avais pas 390 pages à chanter, mais j'avais beaucoup de choses à chanter quand même. C'est le rôle principal. Et on était trois là-bas. Il y avait une Italienne, une Allemande et moi. Et dans les trois, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai plu au metteur en scène qui m'a donné le maximum de jours à chanter par rapport aux autres. Donc j'ai vraiment aussi renforcé mon allemand, je jouais la comédie, j'avais pas de soucis, la voix ça y est, j'avais compris, ça a été un vrai bonheur.
Qu'est-ce que vous aimez tant chez Wagner?
Sa puissance, ce que j'ai en moi, l'énergie et la puissance. Même si je suis malade, même si j'ai 42 fièvres, j'ai chanté le Requiem de Verdi avec 42 fièvres. J'avais une mare d'eau entre mes pieds tellement ça me coulait dans le dos avec la fièvre. J'ai quand même chanté, c'est difficile, vous savez, le Requiem de Verdi. Voilà. Mais après, j'étais malade pendant un mois. Mais ce jour-là, j'étais là. Voilà. S'il n'y a pas ça dans le chanteur, s'il n'y a pas cette envie d'énergie, de donner, de propulser, il faut faire de la mélodie, il faut faire... voilà. Mais il ne faut pas faire d'opéra. Ah non. Non, non, parce que s'il n'y a pas ça, et l'énergie se propulse que sur la détente. Donc si on ne sait pas faire, waouh, je fais pipi dans ma culotte et après j'envoie, ça ne marche pas. J'apprends ça aussi.
Et vous n'avez jamais eu de panne d'énergie ?
Dans ma vie, mais pas dans, quand je fais de la musique. L'énergie, je peux être très très fatiguée le matin et je fais mes exercices d'énergie, tout ça. Et une fois que je suis dans la musique, j'ai l'énergie. Là, ça, je comprends pas ça chez moi. Je peux être même malade. Hein. À partir du moment où il y a un moteur musical, tous mes chanteurs vous le diront, ils viennent ici pour chercher mon énergie. Je sais pas faire autrement. Vous voyez, là, vous me parlez, je suis dans l'énergie, je suis dans la... je suis...
Dans le partage aussi, en fait.
Voilà, voilà, l'envie de donner tout le temps.
Et est-ce que l'opéra n'a peut-être pas comblé plus de choses, finalement, enfin, en tout cas, le chant que le piano ?
Oh, c'est pas pareil. Ah non, mon piano, ça reste mon piano. Je joue toujours du piano. Mais je ne dis pas que ça prend le pas sur le chant, non. Non, j'aime autant chanter que de jouer du piano. Mais ça n'a pas diminué mon plaisir de piano, c'est ça que je veux dire. Alors, je n'ai pas le temps de travailler mon piano, parce que je fais beaucoup d'heures de cours par jour. Mais quand je m'accompagne, j'essaye de travailler un peu mon piano quand même, pour ne pas être trop nul, quoi. Mais on perd, hein, pas travailler.
Et le théâtre, vous le trouvez dans le piano ?
Non, dans la voix. Dans le piano, je trouve la sensibilité musicale de l'écriture.
Cette carrière ensuite, quand vous répétez Salle Pleyel et quand vous débauchez pour Eva, c'est les années 60 ?
Non, j'avais mon fils déjà. Non, j'avais bien...
Mais plutôt les années 70 ?
64, oui. En 64, Frédéric est né en 60. Il avait 4, 5 ans, 6 ans. Oui, il était soliste au petit chanteur à la Croix-de-Bois. Je l'avais mis là pour partir en Allemagne. Heureusement qu'il avait une jolie voix.
C'est-à-dire, vous l'aviez mis là pour partir en Allemagne ?
Ben parce que j'étais engagée, je suis partie 6 mois là-bas. Vous savez, c'est là-bas, on travaille beaucoup. Hein. Quand on monte un rôle comme ça, on y va pour un bon bout de temps. Et puis, le metteur en scène voulait me garder, il voulait me faire rentrer à l'opéra de Kiel.
Donc, il m'a dans la troupe ?
Dans la troupe. Mais moi, j'avais Frédéric à Paris, donc c'était pas possible. Donc, comme Frédéric avait une voix de cristal, je me souviens... Je lui ai dit, écoute, mon chéri, il faut que je m'en aille, j'ai personne pour... ce serait bien si tu es au petit chanteur à la Croix-de-Bois. Tu ferais une année là, ce serait super. Donc, on était à Rouen à l'époque, et je me souviens, on a pris une partition, il a travaillé dans la voiture entre Rouen et Paris, quand il est arrivé, il a chanté, et il a été pris comme soliste. Oh, une voix de cristal, c'était d'une beauté. Mais je parlerai de lui après, parce que c'était un musicien et chanteur. Il avait hérité de moi aussi, quoi.
Daniel Laval dans le choral de Bach « Jésus, que ma joie demeure ». C'est ainsi que se referme le deuxième épisode des Grands Entretiens avec Nicole Fallien. Une série proposée par Judith Chen, réalisée par Françoise Cordet et disponible sur l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.